Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bienvenue si vous nous rejoignez, bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 5 mai 2016. Depuis lundi, en compagnie de l'historien Michel Pierre, nous faisons une traversée du Sahara, dans un instant le 4e épisode, le temps des indépendances. Et puis en deuxième partie, je recevrai le romancier Alain Blottière, qui vient de publier chez Gallimard « Comment Baptiste est mort ».
Une traversée du Sahara avec Michel Pierre.
Aujourd'hui, le temps des indépendances, le Sahara éclaté. Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes l'auteur de Sahara, le grand récit, aux éditions Belin. On a parlé de cette période des indépendances hier, mais après les indépendances commencent les problèmes. Et pour commencer, le problème principal qui perdure encore dans certaines régions aujourd'hui, c'est celui bien sûr des frontières, le tracé des puissances coloniales qui ne résistent pas à la réalité d'aujourd'hui.
Qui résiste plus ou moins, puisque l'une des règles effectivement de l'organisation des États africains avait été de considérer comme intangibles les frontières issues de la colonisation.
Ce qui n'a pas empêché les guerres, les tensions de perdurer.
C'est le moins qu'on puisse dire, puisque en particulier un pays qui par rapport au Sahara et avec sa frontière avec l'Algérie va exprimer un certain nombre de mécontentements, c'est le Maroc. Au lendemain de l'indépendance. Il se trouve que le Maroc, qui avait quand même beaucoup aidé à la lutte de libération, à l'aide au FLN et à l'aide également diplomatique, s'attendait à voir s'ouvrir des discussions sur le tracé de la frontière entre les deux pays. Et ces discussions n'ont pas vraiment abouti, n'ont même pas vraiment commencé, ce qui va amener dès 1963, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie vient d'être à peine proclamée, pour que nous ayons à l'automne 1963 ce que nous avons appelé, ce qu'on appelle la guerre des sables, où autour de Figuig dans le nord et de Tindouf un peu plus au sud, eh bien les deux armées vont s'affronter pour pas de véritables combats mettant aux prises des dizaines de milliers d'hommes, mais il y aura quand même le bruit des armes a été réel avant que une conférence internationale ne fasse revenir la paix et qu'interviennent, mais bien plus tard, des décisions qui rendent la frontière désormais à peu près tracée et définitive entre les deux pays.
Ça, c'était en 73 pour l'Algérie. Le traité va être ratifié sous l'égide de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Traité ratifié par le Maroc en 1993. Mais entre-temps, il y a eu une autre crise, celle de la dernière décolonisation du Sahara, le Sahara espagnol.
Oui, le Maroc qui n'avait pas réussi à voir se réaliser un certain nombre de ses ambitions par rapport à l'Algérie, il y a quelque chose que le jeune roi Hassan II ne veut pas rater, c'est ce qui peut suivre l'indépendance du Sahara espagnol, c'est-à-dire de cette portion du territoire que le Maroc considère comme appartenant à son histoire. Et le Maroc considère que ce pays qui devrait naître de cette indépendance, cette république du Sahara occidental, cette république sahraoui, préparée par le Front Polisario dans les années 1970, est une initiative qui est pour le roi du Maroc quelque chose de même pas concevable. Et c'est là qu'il a, pour reprendre l'expression d'un ministre marocain, l'idée du siècle, qui a été ce qu'on a appelé la marche verte. Et c'est une idée, effectivement, qui a été en quelque sorte couronnée de succès, puisqu'en 1975, au moment où les Espagnols se préparent à quitter ce territoire qui était sous leur contrôle, commence cette marche pacifique hein, de 300 000 Marocains amenés par soit venant à pied, par camion, par autocar, etc., qui vont rentrer au-delà de la frontière entre l'ex-Sahara espagnol et le Maroc, et qui vont en quelque sorte montrer que l'indépendance de cette République sahraoui, même si elle est proclamée l'année suivante en 1976, n'est absolument pas concevable. Et donc le Maroc va s'installer dans cette partie du Sahara où elle est toujours présente aujourd'hui à travers un certain nombre d'épisodes dans les années qui suivent.
En négociant avec la Mauritanie, mais en mettant en colère l'Algérie voisine, et c'est le début d'une nouvelle guerre entre les deux pays frères et voisins.
C'est une guerre qu'il a. Il n'y a pas eu de véritable fracas des armes comme pour la guerre des sables, mais
fermeture
des frontières, et l'Algérie a accueilli, reconnu bien sûr la République sahraoui, et l'Algérie dans la région de Tindouf a accueilli aujourd'hui des centaines de milliers de réfugiés, et la tension entre les deux pays perdure depuis cette époque. L'Algérie ayant choisi de soutenir l'existence de la République sahraoui, alors que le Maroc considère que de toute éternité de l'histoire, ce territoire appartient à l'histoire marocaine, ce qui n'est pas complètement faux sur la longue durée, dans la mesure où le Maroc se revendique aussi de l'héritage almoravide dont nous avions parlé, et les Almoravides viennent bien du sud du Maroc et de cette
Mais
partie
deux
du Sahara.
Mais logique avec chacune son raisonnement légitime s'affronte, puisque pour l'Algérie, il fallait garder les frontières des puissances coloniales.
Oui, et donner naissance à cette république sahraoui démocratique qui est proclamée en 1976, qui est reconnue par un certain nombre de pays encore aujourd'hui, mais qui n'a jamais eu de véritable existence sur le terrain, la décision étant aujourd'hui suspendue par une décision de l'ONU avec une mission locale qui est censée préparer la tenue d'un référendum qui jugerait que d'un territoire qui soit appartiendrait toujours au Maroc, soit deviendrait une république indépendante. Le souci, c'est que le Maroc et les Sahraouis n'ont pas tout à fait la même définition sur les votants pour ce référendum.
Et autre problème frontalier, c'est entre le Tchad et la Libye.
Oui, c'est une histoire presque un peu invraisemblable. C'est ce qu'on appelle la bande d'Aouzou, qui est une bande de territoire qui représente quand même près de 125 000 km², qui est entre le Tchad et la Libye. En 1935, Pierre Laval discute avec Mussolini, et comme la France veut être extrêmement positive vis-à-vis du régime de Mussolini pour essayer de la dissuader d'une alliance avec l'Allemagne, eh bien Pierre Laval va proposer à la Libye, devenue italienne, une extension de son territoire en cédant cette bande d'Aouzou appartenant au Tchad, contrôlé à l'époque par les Français. Sauf que nous sommes en 1935, que ce traité et cette concession territoriale n'a jamais été véritablement ratifiée, la guerre est arrivée, sauf que le colonel Kadhafi, récemment au pouvoir dans les années 1970, va ressortir cette revendication en prenant possession, alors je vais passer sur les détails parce que c'est une histoire complexe, entre le Tchad, entre-temps devenu indépendant, mais où les Français sont très présents, et les revendications de du colonel Kadhafi sur cette partie qui va faire que, entre la Libye, le Tchad, l'intervention française, le regard international, on a un conflit qui va durer pendant des années avec des interlocuteurs différents, qui a été quand même un élément aujourd'hui réglé par la Cour internationale de La Haye. Ce sont les deux grands problèmes entre le problème sahraoui et la bande d'Aouzou qui ont quand même marqué les indépendances dans les années 1970.
Ah mais pas seulement Michel-Pierre, parce que maintenant on va parler des Touaregs, parce que le territoire Touareg lui-même se voit complètement éclaté avec ces nouveaux pays fraîchement indépendants, et on voit bien qu'il y a bien un territoire qui est partagé par plusieurs pays, quoi, où...
C'est-à-dire le monde Touareg, si on essaye de le faire à gros traits, ce sont des ensembles de cultures, de groupes, de tribus qui avaient été effectivement partagés entre le Sahara algérien colonial et puis le Niger et le
Mali.
Soudan de l'époque, et le Mali qui devient le Mali de l'indépendance, mais selon des territoires qui était lié aux Touaregs de telle ou telle région. Ce qui se passe au moment des indépendances, c'est que l'Algérie réussit à peu près l'intégration de Touaregs algériens, en quelque sorte, du Hoggar et du Tassili Nadjer, en les intégrant à peu près au nouvel État. Ça se passe de manière beaucoup plus compliquée dans ce qui devient le Mali, en particulier d'un président qui était Modibo Keïta, qui est sur des options, disons, socialistes du régime malien, et qui considère que ces nobles féodaux du Nord, cette société Touareg traditionnelle, est quand même un petit peu à corriger par rapport aux options du régime. Alors de plus, ces Touaregs qui avaient pris finalement l'habitude de la présence française avec cette soumission plus ou moins résignée dont nous parlions, est un peu déstabilisé de ce temps des indépendances, avec un problème réel. C'est en particulier la noblesse Touareg, ou les Touaregs possesseurs de troupeaux, de biens, etc., n'avaient pas envoyé leurs enfants à l'école coloniale. Donc en 1962, ils se retrouvent avec les États indépendants. Je reviens sur le Mali, avec une autorité de ce nouvel État depuis Bamako, c'est-à-dire depuis des populations, simplifions les choses, des populations noires dont, dans leur longue histoire, ils avaient plutôt fait des esclaves. Mmh. Et ils se retrouvent, et on retrouve ça dans un certain nombre de textes, et là évidemment je simplifie beaucoup, mais il n'empêche que c'est présent, ils se retrouvent à ce moment-là avec ceux qui étaient autrefois considérés comme des esclaves, qui ont désormais le pouvoir. Et un pouvoir qui n'a pas peut-être à ce moment-là la souplesse nécessaire pour intégrer ce monde Touareg. Et en 1963, vous avez une première révolte de ces Touaregs qui vont subir quand même une répression pour le moins sévère, et sans que personne s'en inquiète vraiment en 1963. Personne ne va prendre fait et cause pour cette rébellion Touareg dans un monde qui a acté les indépendances, et on considère que ça peut être une histoire de nobles qui cherchent à retrouver leurs anciennes prééminences, et personne ne va vraiment faire très attention à cette première révolte de 1963. Mais les Touaregs en retireront, en tout cas ceux du Mali, mais aussi pour partie ceux du Niger, en retireront un certain nombre de leçons. Le Sahara va apparaître sur la carte du tourisme mondial, alors d'une façon relativement modeste, hein, nous ne sommes pas sur des millions de visiteurs, mais quand même sur 20 à 30 000 qui vont dans telle ou telle région du Sahara. Il y a ceux qui vont vraiment sur place, qui sont quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, et puis ceux qui vont aller au cinéma. Mais le fait d'aller au cinéma voir Fort Sagan encourage aussi à tenter d'aller sur place. Et vous avez incontestablement du développement de tour opérateur, de guide qui va commencer à naître en Algérie, en Mauritanie, au Niger, dans le Nord Mali, et qui vont faire que on a parallèlement à toutes les tensions dont on a parlé, on a ces touristes qui viennent découvrir un thé au Sahara, effectivement, qui viennent découvrir ces paysages, qui viennent éventuellement dans le dialogue avec ceux qui habitent ces paysages. Et puis en 1979, comme là aussi un prolongement de j'allais dire des auto-chenilles Citroën et de la croisière des sables, eh bien vous aviez le premier Paris-Dakar avec quelques dizaines de véhicules, et puis qui devient après une chose totalement invraisemblable, qui continue à exister aujourd'hui sous le nom de Paris-Dakar ou du Dakar, même si ça se déroule en Amérique du Sud.
Alors demain, on verra comment le 21e siècle commence très mal pour le Sahara. Demain, dernier épisode, on parlera d'aridité croissante, de malgouvernance, des tensions ethniques, des interventions militaires des grandes puissances, pour la plupart malencontreuses, de la déstabilisation générale et bien sûr du Sahara devenu terre du djihadisme et d'un islam de combat. À demain, Michel Pierre.
À demain.
Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour.
Bonjour Alain Blottière.
Bonjour.
Merci d'être venu.
Un grand plaisir.
Quand l'immensité du désert devient un théâtre oppressant, une prison implacable. Dans votre dernier roman, édité chez Gallimard, « Comment Baptiste est mort », vous évoquez une prise d'otage de touristes français. On ne sait pas dans quel désert le drame se produit, mais on a des éléments, en revanche, sur les ravisseurs. Ce sont bien des djihadistes. Et quand le roman commence, tout a été fait. C'est-à-dire, l'événement a eu lieu. Et c'est l'interrogatoire ou le débriefing d'un des survivants. Un adolescent, Baptiste, mais pas du tout Baptiste, puisqu'il ne veut plus qu'on l'appelle Baptiste. Il veut qu'on l'appelle comme ses ravisseurs l'ont appelé, c'est assez fou, c'est-à-dire Youmaï, qui veut dire renard du désert. Ça se passe où, cette histoire, Alain Blottière ?
Ça se passe dans le Sahara, en fait.
Mais quel Sahara ?
Une sorte de Sahara un peu reconstitué. Je me suis quand même beaucoup servi de paysages que je connais, moi, dans le désert libyque. Je me suis servi de ce genre de paysage, mais en réalité, on peut imaginer... Vous savez, je me suis inspiré d'un fait divers réel. Hein. C'est une famille française qui s'est faite enlever il y a 2 ou 3 ans au Cameroun. Et ce qui m'avait intéressé, c'est que c'était toute une famille avec les parents et les 3 enfants. Ça s'est très bien fini pour eux, puisqu'ils ont tous été libérés. Mais ça, cette histoire m'avait frappé parce que je pense que c'était la première, et d'ailleurs l'unique fois, que des djihadistes enlevaient une famille avec des enfants. Et le fait qu'il y ait des enfants m'avait un peu fasciné. Bon, je n'ose pas employer ce mot, mais ça m'intéressait d'imaginer ce que des enfants pouvaient ressentir sous la menace d'hommes armés qui apparemment leur veulent du mal, malgré la présence des parents. Donc voilà, et donc c'est comme ça que j'ai décidé un peu d'écrire là-dessus. Après, je suis parti dans une fiction totale, hein, ça n'a plus aucun rapport avec la réalité. Et donc ce qui se passe dans mon livre, c'est que on ne libère qu'un membre de cette famille, c'est le fils aîné, et les autres, on n'a pas de nouvelles. Donc on cherche à comprendre... Quand il revient en France, ce garçon...
Pourquoi il a été isolé du reste de la
famille ? Pourquoi il a été isolé ? Pourquoi on a libéré que lui ? Et donc, on assiste à son débriefing d'une façon un peu dialoguée, très simple. C'est son débriefing, question-réponse. Mmh. Et lui, évidemment, d'abord, il était encore en état un peu de stress post-traumatique. Donc, il a perdu la mémoire de certains événements importants, apparemment. Il y a des choses aussi qu'il n'a pas envie de dire. Et ça, on le sait par d'un contrepoint d'un récit qui alterne avec ce dialogue. Et ce récit, c'est en fait ce dont il se souvient. Voilà, il se souvient que ça ne veut pas dire qu'il va le raconter. À la personne qui le débriefe.
Et la question qui tient en haleine le lecteur, c'est pourquoi il ne veut pas raconter ? Pourquoi il ne veut pas retrouver une vie plus paisible ? Pourquoi il ne veut pas mettre des mots sur ce trauma et sortir de cette histoire ? Parce que quand il va être pris en charge, parce que on peut même employer ce terme, être pris en charge par les djihadistes, ils vont lui donner un nom, Yumaï, et du coup, il accepte cette nouvelle identité, comme si l'affreux rapt dans sa famille a fait l'objet n'était qu'une initiation à la vie.
Oui, c'est tout à fait ça. On comprend à la fin du livre, en fait, pourquoi il ne veut pas tout raconter et pourquoi surtout sa mémoire lui fait défaut. Il a un véritable traumatisme en lui qui l'empêche de tout dire et qui l'empêche de se souvenir de tout. Vous savez, quand on est dans cet état, en particulier, j'ai pensé aux enfants soldats. Vous savez, les enfants soldats qu'on a forcés à commettre certains
actes. Et qui sont présents parmi les preneurs d'otages.
Bien sûr, bien sûr. Ces enfants soldats qui sont traumatisés ne se souviennent pas de ce qu'ils ont commis, souvent. Et donc, c'est un long travail pour qu'ils s'en souviennent. Et le long travail, mon Baptiste Yumaï va finir par le faire. Mais on saura à la fin du livre pourquoi il est ainsi. Mais alors, ce que j'ai voulu montrer aussi un peu, c'est sa fragilité. C'est-à-dire comment il est devenu une proie facile, contrairement aux autres membres de la famille. Il est d'abord complètement isolé, il se sent un peu déconnecté. Déjà, bon, évidemment, on lui a supprimé son portable, etc. Donc il se retrouve dans une vie totalement réelle. Il n'y a plus de virtuel cette fois. Donc il se trouve dans une vie réelle, confronté à des dangers, à la peur de mourir.
Et puis surtout la fin des repères, ça c'est très important. Oui. Le moment où cet adolescent, parce que c'est un adolescent, voit...
Il a 14 ans.
Voilà, il voit ses parents dans un état de fragilité.
Exactement.
Il perd les deux repères qu'il avait, avec des scènes d'ailleurs très fortes à la Bleutière.
Oui, effectivement, il se sent soudain très seul, parce que les seuls repères, les seuls éléments rassurants qu'il aurait pu avoir autour de lui, ce sont ses parents. Or, il comprend vite que son père est paniqué. Et que sa mère se réfugie dans la prière. C'est une catholique fervente. Elle se réfugie dans la prière alors que lui ne croit pas en Dieu. Donc, il se sent soudain très seul et en même temps, il se sent, comment dire, il se sent demandé par ses ravisseurs. Il sent une demande de ses ravisseurs qui ont envie de, qui ont compris que c'est une proie facile et qui vont donc se saisir de lui en quelque sorte, parce que il semble différent des autres. Et parce que, aussi, il a l'âge où, dans ce milieu de ces djihadistes africains, en fait, hein, moi j'ai pensé un peu à Boko Haram, des filiales de Boko Haram, il y en a plusieurs en Afrique, où dans ce milieu musulman, mais surtout africain, en fait, où il reste quand même des éléments africains importants, c'est l'âge où on fait l'initiation à la chasse, à la guerre, à l'amour, etc. Et donc, et ses ravisseurs vont tenter de l'initier, de l'enrôler, en fait. De l'enrôler. Et c'est ce qui va se passer, en fait.
Pourquoi ce sujet aujourd'hui, Alain Blottière ?
Ce sujet aujourd'hui, à vrai dire, ce que je vous disais, c'était que l'idée m'est venue de ce fait divers, réel, et que j'ai évidemment commencé à écrire ce livre bien avant que le djihadisme devienne extrêmement prégnant chez nous en France, c'est-à-dire depuis les attentats. J'avais déjà écrit la moitié du livre, donc ce n'est pas lié à ça. C'est lié au fait qu'on enlève souvent des Occidentaux dans ces pays, mais que c'était la première fois qu'on enlevait aussi des enfants. Et que cette chose m'avait troublé et intéressé.
Qui pose les questions à Baptiste Yumaï ?
Bien, c'est la personne qui fait son débriefing. Alors, ça peut être aussi bien un flic qu'un psychologue. Je pense qu'en fait, les deux poseraient les mêmes questions. Mais parce qu'un flic, les flics qui font les débriefings des, je sais pas, des renseignements généraux, je ne sais quoi, qui font les débriefings de
tâches
qui sont
livrées. Alors pourquoi vous êtes resté vague, justement? Parce que c'est vraiment un dialogue cru que vous, qui constitue, ce roman, même s'il y a effectivement des passages plus écrits. C'est cet échange, c'est cette parole qui n'arrive pas, à venir. On sent que la personne qui interroge attend des réponses ou des éléments de réponse, et que Baptiste ne veut pas redevenir Baptiste.
Ben non, il ne veut pas redevenir Baptiste, c'est trop difficile pour lui de redevenir Baptiste. Je crois que il est mort, Baptiste. C'est le titre du livre, comment Baptiste est mort. Baptiste est mort là-bas. On comprend peu à peu pourquoi et comment il est mort. Mais pour lui, le travail, si vous voulez, le travail de retour à Baptiste, le retour à une vie pseudo-normale en France, est loin d'être achevé. C'est une entreprise qui va peut-être durer des années, vu ce qui s'est passé. Et dans le temps du roman, il n'a pas fait ce travail-là. Donc Baptiste est mort, en fait.
Et pourquoi avoir choisi un captif du désert? Parce que ça aurait pu se passer dans une ville, dans un village, dans des montagnes. Vous avez choisi le désert.
Oui, parce que le désert, ça fait partie de ma vie. C'est un endroit que je connais bien. Je pratique assez bien le désert égyptien, le désert libyque, comme on l'appelle. Et je me suis vraiment servi de décor du désert libyque de ce que je connais, en fait, de ce que je connais pour décrire les paysages, pour décrire cette grotte aussi rupestre où ces ravisseurs le relèguent un peu avec ses gravures rupestres. Mais là, je me suis servi de grottes existantes, en fait, et de décors qui existent réellement.
Merci beaucoup Alain Blottière. Alors justement, le questionnaire d'un autre jour va tourner autour du désert.
Le plus grand romancier arabe selon vous? Alors c'est une excellente question.
Vous qui vivez en Égypte depuis quelques années déjà.
Oui, oui, absolument. Écoutez, je dirais... vous allez me rappeler son nom, les années de Zet.
Ouais, Sonala
Ibrahim.
Deuxième question.
La plus belle des bibliothèques du monde. Voilà une belle question. Ça serait très simple de vous répondre la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie.
Bah si vous pensez réellement ça, Alain Blottière.
Parce qu'elle est vraiment belle. C'est surtout que dans la salle de lecture de la bibliothèque d'Alexandrie, on est devant la mer. Et ça, c'est merveilleux.
Générique de fin par mon invité Alain Blottière, qui nous a fait la gentillesse de passer à l'émission avant de repartir au Caire. C'est à vous de jouer.
C'était Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée avec la collaboration d'Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. On peut s'abonner au podcast de cette émission en passant par le site franceculture.fr. Un autre jour est possible est réalisé par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Claude Niort.
Merci beaucoup Alain Blottière. On se retrouve demain à la même heure pour le dernier épisode de notre traversée du Sahara avec l'historien Michel Pierre. Et en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Bonne matinée, à demain.